Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici de retour avec les nouvelles du ciel. On continue ce thème qui est tellement long avec le milieu interstellaire et la formation des étoiles. Bonjour Denis.
Bonjour Gisèle, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Galaxie, fidèles à cette émission.
Oui. Il y a un événement spécial à la trappe, on en parlera peut-être tout à l'heure. On ne pourra pas échapper à cet événement qui se passe actuellement aux Pléiades. Est-ce qu'il y a un rapport entre le milieu interstellaire et la formation des étoiles? Parce qu'on avait évoqué la formation des étoiles le mois dernier.
Oui, tout à fait, Gisèle. Nous avons parlé dans les émissions précédentes de ce fameux MIS, milieu interstellaire,
oui.
Qui est constitué de poussière et de gaz. Et ce gaz, justement, il va jouer un rôle important dans la formation stellaire, c'est-à-dire la formation des étoiles.
Oui.
Donc il y a certaines régions dans notre galaxie qui sont très denses en gaz, c'est essentiellement de l'hydrogène, et sous l'effet de la gravité, on va assister à des phénomènes de contraction de la matière, et cette matière va pouvoir, ces nuages de gaz vont pouvoir donc se contracter, avoir des densités qui vont augmenter, donc ça peut être lié à l'interaction avec d'autres matières donc interstellaires, ou ça peut être lié à une onde qui se propage suite à l'explosion d'une étoile,
oui.
C'est-à-dire une supernova.
Oui.
Les supernovas, ce sont des étoiles en fin de vie qui explosent, et en explosant, il y a des ondes qui se propagent donc dans notre galaxie et qui vont englober ces régions de gaz, les contracter, et là, on va assister à un rapprochement des atomes d'hydrogène. On va avoir affaire à des nuages moléculaires qui vont être très très denses, des nuages qui peuvent atteindre, comme je le disais la dernière fois, plus de 50 000 fois la masse solaire. Je rappelle qu'une masse solaire, c'est la masse du Soleil, ça équivaut à 2 fois 10 exposant 30 kg. Alors 10 puissance 30 kg, c'est un 1 avec 30 zéros à la suite. Et vous multipliez le tout par 2. Et vous avez une idée de la masse de notre Soleil. Et pourtant, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus massives que le Soleil, et d'autres étoiles aussi qui sont moins massives que le Soleil. Donc le Soleil, c'est une étoile qui nous sert de référence pour comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur même des autres étoiles, d'une part, et mieux connaître aussi leur évolution. C'est notre laboratoire.
D'accord.
Un laboratoire stellaire qui est situé à 150 millions de kilomètres de nous, alors que l'étoile suivante est située à 4 années-lumière.
Oui.
4 années-lumière, ce qui correspond à 40 000 milliards de kilomètres. C'est quand même plus intéressant de pouvoir étudier les phénomènes sur notre Soleil, car c'est l'étoile la plus proche de la Terre. Et ça nous donne beaucoup d'informations pour concevoir justement des modèles stellaires. Parce que la compréhension de la naissance, de la formation, de l'évolution des étoiles dans l'univers repose sur des modèles théoriques qui sont contraints aussi à l'observation.
Oui.
L'observation va permettre de pouvoir conforter certains modèles, en détruire d'autres, en améliorer certains. Ça permet d'avoir une idée bien précise ou une meilleure approche justement sur la naissance et l'évolution des étoiles dans notre galaxie, entre autres.
Vous disiez là tout à l'heure que cette masse de gaz se compresse avec tous ces résidus d'étoiles. Est-ce que ça s'aimante les uns avec les autres et ça peut commencer un petit amas qui va donner naissance à une future étoile, c'est ça?
Alors voilà, tout à fait. Donc cette matière dans ces cocons,
Oui.
Cette matière va se contracter. Hein. Mais ces poches de gaz, en fait, qu'on appelle des globules, oui. D'accord, peuvent se fragmenter dans notre galaxie. Chaque fragment peut contenir une densité importante aussi de matière. Et c'est situé dans des régions où vous avez beaucoup d'interactions avec la matière interstellaire. Mais ce n'est pas, je dirais, évident de pouvoir mettre ça en évidence sur le plan de vue observationnel, parce que ce sont des régions en fait qui dégagent très très peu de lumière. Hein. On a affaire à des luminosités qui sont équivalentes à 100 000 fois inférieure à celle du soleil. Hein. Mm-hmm. Donc vous imaginez la luminosité solaire, et bien ces poches de gaz, enfin, ces globules, ont une luminosité de 100 000 fois inférieure à celle du soleil.
Oui.
Donc ça dégage très très peu en fait de lumière dans le domaine du visible.
Oui.
Et ce sont des régions qui sont très sombres au niveau des clichés.
Oui.
Et que va-t-il concrètement se passer ? Eh bien, c'est comme la matière est particulièrement dense, mm-hmm. Eh bien, on va rentrer dans un processus, une phase d'élévation de température. Et cette élévation de température s'accompagnera également d'une augmentation progressive de la luminosité.
Hein. Donc ça va se réchauffer en fait par friction.
Voilà, c'est ça. Et donc la matière n'est pas statique.
Oui,
hein.
Oui.
Donc les atomes vont rentrer en collision. Comme la matière est très dense, eh bien on va avoir des collisions. Mm-hmm. Et ces collisions permettent aussi d'augmenter la température.
D'accord.
Prenons un exemple très simple. Je pense que vous avez déjà fait de la bicyclette, Gisèle.
Oui.
Bon, vous allez me demander quel est le rapport avec ça.
Ah non, mais je suis sûre que vous allez me le donner.
Surtout le jour où vous crevez, où votre pneu est dégonflé. Hein.
Oui.
Bon, vous allez utiliser une pompe de vélo.
Oui.
Eh bien, vous remarquerez qu'à chaque fois que vous actionnez sur le piston du vélo,
oui.
Vous comprimez en fait le gaz qui est situé à l'intérieur du cylindre. D'accord. Mm-hmm. Et si vous posez justement la main sur le cylindre, eh bien vous avez affaire à un échauffement.
Oui.
Eh bien ça, c'est en fait une transformation en fait de l'énergie mécanique qu'il y a à l'action en fait du piston.
Oui.
Et un dégagement d'énergie thermique hein, qu'il y a à l'élévation de la température. Et vous remarquerez quand vous posez la main sur le piston, eh bien votre piston il est chaud.
Oui.
Eh bien
c'est vrai.
Cette chaleur, il y est aussi à la compression en fait de votre gaz,
oui.
À l'intérieur de votre cylindre.
Ça parle vraiment bien.
Voilà.
Oui, oui.
Notre poche de gaz,
oui.
Va monter en température, c'est-à-dire qu'on va passer de grosso modo du zéro absolu, hein,
oui.
C'est-à-dire ça correspond à peu près à moins 273 degrés Celsius, à des températures qui pourront atteindre les 4000 degrés. Et ça sur une durée d'un siècle à peu près, 100 ans. C'est-à-dire que sur 100 ans, eh bien, vous allez passer donc de moins 273 degrés Celsius à 4000 donc, degrés environ.
Oui.
Et puis, la luminosité également augmentera sur cette période et pourra atteindre 500 fois la luminosité solaire.
Ah oui.
500 fois. Donc, vous passez en fait d'une luminosité qui est 100 000 fois inférieure à celle du soleil, et au bout d'un siècle, au bout de 100 ans, eh bien vous allez avoir des luminosités qui atteindront donc 500 fois la luminosité du soleil.
Oui.
Vous imaginez la luminosité du soleil à l'heure actuelle, eh bien vous multipliez par 500 fois.
Voilà. C'est
donc c'est quand même
oui.
Incroyable. Et ça sur un espace d'un siècle,
mm-hmm.
Hein, c'est-à-dire 100 ans. Et ensuite, que va-t-il concrètement se passer ? On rentrera dans une deuxième phase.
Quand vous me dites que la température est montée, tout ça, qu'elle est beaucoup plus élevée que celle du Soleil, l'étoile est vivante ?
Pas encore,
ah.
D'accord, parce qu'on est dans une phase, je dirais, embryonnaire.
D'accord.
Voilà, parce que malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Bon, là, j'ai pris l'exemple sur une étoile typique solaire, hein, comme le Soleil. Mais il ne faut pas oublier une chose, qu'il y a des étoiles qui sont plus petites, il y a des étoiles plus grandes. Et il y a justement des conditions bien particulières, et notamment de quantité de matière initiale, les quantités de matière qui vont impacter justement le devenir, l'évolution de l'étoile. C'est important de pouvoir bien distinguer justement les différentes masses initiales, parce que ça nous donne des informations justement sur le devenir de l'étoile.
Oui.
Voilà. Et au bout d'un siècle, que va-t-il se passer ? Eh bien, la luminosité, elle va décroître progressivement jusqu'à atteindre 10 fois la luminosité solaire, pour des températures à peu près constantes autour de 4000 degrés. Et ceci, ça sera sur une période de 100 000 ans. Donc on a là affaire à un ralentissement progressif de la luminosité pour des températures, je dirais, à peu près constantes, qui tournent autour des 4000 degrés.
Oui.
Et ensuite, quand une étoile type Soleil, en phase embryonnaire, atteindra 10 fois la luminosité solaire, on va avoir une augmentation de la température, de nouveau, qu'on va progresser de 4000 vers 5000 degrés, et la luminosité va continuer à décroître pour atteindre la même luminosité du Soleil. Et là, on va rentrer dans des phases qui vont atteindre 1 million d'années. Un million d'années pour passer de 4000 degrés à 5000 degrés. Donc ça, c'est des températures au niveau de la surface, je le précise bien. Et progressivement, on va arriver à la même luminosité solaire. Voilà. Et ensuite, concrètement, la température va continuer à augmenter. On va passer de 5000 degrés à 5700 degrés, à peu près, au niveau de la surface. Et là, on va rentrer dans une phase de pré-nucléarisation, c'est-à-dire que les éléments chimiques, les atomes d'hydrogène constituant le noyau de l'étoile vont commencer à se rassembler pour commencer à amorcer les premières fusions thermonucléaires au sein même des étoiles. Et dans ces cas-là, eh bien, on rentrera dans une phase qu'on appelle tautorie, c'est-à-dire le premier bébé étoile.
D'accord.
Voilà, ça sera ça sera la proto-étoile. Voilà, il faut compter plusieurs dizaines de millions d'années justement entre justement cette fameuse poche de gaz, ce fameux globule initial qui est froid, des températures qui tournent autour des moins 273 degrés Celsius, des luminosités 100 000 fois inférieures à celles du Soleil, pour arriver par des pics
à presque 6 000 au-dessus du Soleil.
Voilà, 5700 degrés au niveau de la surface. Et là, toutes les conditions, je dirais, seront réunies pour qu'il y ait les premières fusions thermonucléaires qui vont permettre d'activer le générateur nucléaire permettant d'obtenir des étoiles comme le Soleil, par exemple.
Est-ce que, on parle de naissance d'étoiles, est-ce qu'il pourrait avoir la naissance d'un autre soleil, ou est-ce que c'est peut-être notre soleil qui explosera et qui créera un autre soleil?
Ah ben, il y a les deux cas peuvent se présenter, en effet. C'est-à-dire que l'explosion d'une étoile, ça peut conduire à la formation d'autres étoiles. Nous sommes même, nous autres, constitués d'éléments chimiques que nous retrouvons aussi dans les étoiles. Nous sommes de la poussière d'étoiles. Mais bon, dans le cadre des explosions d'étoiles, ce qu'on appelle aussi des supernovas, eh bien, on a affaire là à des étoiles qui sont beaucoup plus massives que le Soleil. Et il est vrai que la masse initiale de matière va jouer un rôle déterminant justement dans l'évolution de l'étoile. Hein. Pour en revenir à ce fameux globule de matière initiale, si vous avez une masse qui est inférieure à un dixième de la masse solaire, eh bien malheureusement...
Ça ne fera jamais un soleil.
Le processus, malheureusement, s'interrompra et ça donnera naissance à des grosses planètes. Hein. Comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, hein, ce qu'on appelle les planètes joviennes,
oui.
C'est-à-dire des grosses planètes du système solaire. Hein, Jupiter qui est une planète qui fait... qui a un diamètre 11 fois plus grand que celui de la Terre. Hein. C'est quelque chose de gigantesque, de monstrueux même, et qui est constitué d'hydrogène et d'hélium. Et curieusement, l'hydrogène et l'hélium, ce sont des éléments chimiques que nous retrouvons dans la composition du Soleil.
Oui.
Voilà.
Jupiter pourrait devenir un Soleil ou pas ?
Alors, aurait pu.
Ah, aurait pu.
Voilà, aurait pu devenir un Soleil. Parce que à l'époque, hein, j'en reviens toujours à ce fameux, à cette fameuse poche de gaz,
oui.
À ce fameux globule. Dans le globule, il peut avoir, d'accord, la formation de plusieurs étoiles. Il faut savoir que dans notre galaxie, la Voie lactée, vous avez 50% des étoiles qui sont des systèmes doubles, c'est-à-dire deux étoiles qui tournent autour d'un même centre de gravité. Et c'est vrai que dans notre système solaire, il aurait pu avoir des étoiles doubles.
Mmh.
Jupiter aurait pu devenir une étoile, Saturne également, en fait, les planètes géantes gazeuses auraient pu devenir des étoiles. Mais toutes les conditions initiales n'étaient pas réunies, et notamment la fameuse masse initiale.
Oui.
Hein, pour obtenir des étoiles, il faut que la masse soit supérieure ou égale à un dixième de la masse solaire à l'heure actuelle. Mmh. Et vous avez l'autre cas extrême, des masses initiales qui font plus de 60 fois la masse solaire.
Ah oui.
Et là, malheureusement, l'étoile, malheureusement, les poches extérieures de l'étoile se désintègrent et partent dans tous les sens.
Oui.
Voilà.
Et pourtant, s'il y a friction, elles peuvent pas se reconstituer. S'il y a friction, réchauffement, une sorte de, oui, de d'aimant qui va
voilà.
Par la friction, peuvent pas refaire une étoile.
Oui, alors bon, on peut envisager éventuellement ce scénario, mais là, bon, la question est quand même très complexe, parce qu'encore une fois, il faut des conditions de quantité de matière, de densité, de pression, de température également. Donc, tous ces éléments, il faut en tenir compte, justement, pour la naissance donc, des étoiles. Je n'irai pas dire que ça va jusqu'au domaine, je dirais... aléatoire, mais c'est comme la fécondation naturelle. Vous avez beaucoup de spermatozoïdes et vous avez un seul qui est élu. Hein,
oui, tout à fait.
Dans l'histoire. Hein.
Tout à fait.
Donc
oui.
Il faut vraiment des conditions bien particulières.
Oui.
Voilà. C'est très important cette masse initiale parce que ça permet de pouvoir comprendre l'évolution des étoiles.
Mmh.
Et justement, le fait d'avoir des masses initiales beaucoup plus importantes, ça aura un impact sur la cinétique de l'évolution stellaire. Hein. C'est-à-dire que pour des étoiles qui sont beaucoup plus grosses que le Soleil, eh bien, les processus subiront en quelque sorte une accélération. Et autrement dit, la durée de vie des étoiles sera plus courte hein, pour des étoiles les plus massives. Et inversement, pour des masses initiales qui sont comprises entre un dixième et une masse solaire, eh bien là, on aura donc des processus beaucoup plus lents et la durée de l'étoile sera beaucoup plus longue.
Mmh. Alors, je le disais justement au début de l'émission, une grande exposition a lieu en ce moment à La Trappe et c'est sur la Lune. Mais il n'y aura pas que ça tout le long du mois de mars à observer justement. Avec l'opposition astéroïde, Angelina, expliquez-nous.
Oui, Angelina, ce charmant prénom est attribué à un astéroïde et qui sera observable donc le 2 mars. Hein, le 2 mars à 7h55 du matin. Donc ça sera vraiment pour les plus courageux peut-être. C'est un astéroïde, c'est un bloc de roche. Hein, et la particularité d'Angelina, c'est un astéroïde qui est situé à 2,5 unités astronomiques du Soleil. Sachant que à 2 unités astronomiques, on trouve l'orbite de Mars. Et au-delà, on a cette fameuse ceinture d'astéroïdes, hein, qui gravite entre Mars et Jupiter. Mm-hmm. Voilà, donc Angelina est un astéroïde qui circule dans cette zone.
Oui.
Il faudra bien sûr avoir un télescope, une lunette pour pouvoir observer Angelina. Oui. Et justement, aux Pléiades, il y a une équipe spécialisée sur le suivi des astéroïdes.
Il faut en profiter.
Il faut en profiter.
Il y a aussi un transit avec Saturne-Jupiter.
Oui, tout à fait. Hein. Le 11 et le 18 mars, hein, on a des phénomènes de transit, hein, des satellites de Jupiter. C'est-à-dire qu'on pourra observer l'ombre des satellites sur la surface de Jupiter. Donc là, ça sera à 7h30 du matin. Bon, là, peut-être, on risque d'être gêné par la luminosité solaire. C'est à voir. Le 19 mars, bien, il y aura un rapprochement de la Lune et de Régulus à 4h26 du matin, hein, en temps local. Régulus est une étoile assez complexe. En fait, c'est deux paires d'étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Hein. Mm-hmm. En fait, il y a quatre étoiles en tout. Et la particularité de ce système... pour faire le rapprochement avec le thème qu'on a traité aujourd'hui, c'est que ces quatre étoiles sont situées dans le même globule, d'accord, et ont donné naissance à un système complexe, hein, de deux paires d'étoiles, l'une qui tourne autour de l'autre, ceci dans le même système. Hein. Donc Régulus, qui est l'étoile, le système, on va dire, le plus brillant de la constellation du Lion.
Oui.
Voilà. Ensuite, le 20 mars, c'est l'équinoxe du printemps. Alors la particularité de l'équinoxe, c'est que au niveau de l'équateur, vous avez le Soleil qui est au zénith, c'est-à-dire perpendiculaire à midi.
Oui. Hein,
perpendiculaire au niveau de l'équateur. Mm-hmm. Voilà. Donc les personnes qui habitent au niveau de l'équateur auront le Soleil au zénith, c'est-à-dire perpendiculaire. Le 27 mars, il y aura un rapprochement entre la Lune et Jupiter à 4h11 du matin. Et le 29 mars, il y aura un rapprochement de la Lune avec Saturne à 6h09 du matin. C'est-à-dire que Jupiter et Saturne, hein, pour ces deux dates, seront très proches en fait, de la Lune. Donc si vous voyez une étoile brillante à proximité de la Lune, ça sera Jupiter ou Saturne.
D'accord.
Respectivement pour ces deux
dates. Ça, on peut le voir à l'œil nu.
Voilà.
Les animations, c'est comme tout le temps, il y a toujours des animations à la trappe. Pour tout savoir d'ailleurs, on peut rappeler le site comme ça.
Oui, il suffit très simplement de mettre le balcon des étoiles dans le moteur de recherche de Google, par exemple, et vous aurez toutes les informations, sachant que il y a des stages qui sont organisés courant le mois de mars. Hein, le 2 et le 3 mars, vous avez des stages dits étoilés. Et puis, vous avez un astro-repas et des week-ends escapades pour le 9 mars. Et puis, vous avez également la fête de la gastronomie le 23 mars et le 30 et 31 mars, également un autre stage astronomique qui sera organisé au site de Pléiade à la Trappe.
On se retrouve le mois prochain et on continuera certainement encore avec cette naissance d'étoiles parce que j'ai encore plein de questions.
Mais avec grand plaisir, Gisèle.
À bientôt.
Merci à toutes et à tous.